Donc, on appelle Frédéric Pierru, qui est sociologue, Régis Aubry, qui est responsable de l'unité douleur, soins palliatifs, PASS de Besançon, Laetitia Flender, qui est directeur des finances du groupe hospitalier La Riboisière-Saint-Louis, et Christine Bronec de la DGOS.
Une journée réussie, c'est une journée frustrante. Celle-là va pas,
Christian et Denis,
elle va pas rater
en modération
là-dessus. Non, je voudrais juste vous dire ça. Moi, je pense, mon souci là actuellement, c'est notre collègue Bruno Degor qui va présenter le prochain collègue 2014 à Chambéry et Monsieur Cordier qui doit faire la synthèse de la journée. Je serais un petit peu désolé qu'il le fasse devant une salle à moitié vide parce que tout le monde a dû partir. Donc, on a fait un effort magnifique parce que c'est très dense tout ce qu'on a eu toute la journée. Mais c'était un peu pour ça, pour essayer de trouver cet équilibre que j'étais comme ça un petit peu désagréable avec la grande pendule et que je vais continuer à être un petit peu désagréable en demandant aux orateurs maintenant de aussi se comprimer un petit peu pour être chacun de l'ordre de 10 minutes d'intervention de façon à ce que là aussi on n'accumule pas un autre retard après. Merci. Donc, on va démarrer avec Frédéric.
Bien, bonjour à toutes et tous. Alors, je vais me situer non pas en tant que sociologue, mais plutôt en tant que politiste et par ailleurs politiste engagé aux côtés de Grimaldi, Lioncan, Tabuteau et Bourdillon en faveur d'une santé égalitaire et solidaire. Et donc, avoir un propos peut-être un peu normatif et polémique et moins académique d'un point de vue sociologique. Et en abordant la question, qui est dans le droit fil de ce qui a été traité ces dernières heures, sur l'écart croissant entre ce qui est dit et ce qui est fait, entre le formel et l'informel, entre le droit et les actes, et donc de poser la question de l'exercice effectif des droits. Et quand je dis de l'effectivité des droits sociaux. On va s'en aller, là, je pense. Bon. Alors, ce faisant, j'aimerais attirer l'attention sur ce phénomène que mon collègue à Lille, Alexis Spire, a appelé la politique des guichets. Alors, qu'est-ce que la politique des guichets? Eh bien, c'est ce qu'il a montré à propos du travail des agents de préfecture, qui montre que, à propos des demandeurs d'asile, des migrants, que le droit en façade peut rester inchangé, mais que dans les actes, on pervertit ou l'on met dans l'impossibilité d'exercer le droit en pratique par notamment des directives officieuses, par des manques de moyens, etc. Et que l'on s'en remet finalement à la discrétion des agents de terrain, au guichet, pour opérer en un sens le rationnement du droit d'asile qui, quand on regarde le droit, reste globalement inchangé et qui peut toujours être en adéquation avec l'idée que la France est une terre d'accueil et qu'elle est généreuse. Alors, il me semble que dans les PASS, on retrouve un peu le même phénomène que dans les préfectures, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une tentation, me semble-t-il, notamment en période de fortes contraintes budgétaires, de laisser s'accroître l'écart entre le discours et les actes, entre le formel et l'informel, entre la lettre du droit et les pratiques professionnelles. Et quand je dis que c'est une politique des guichets, c'est que c'est volontaire. C'est volontaire, c'est pas involontaire. Autrement dit, je pense qu'il y a derrière ça cette idée que l'on va ristourner les choix difficiles, les dilemmes éthiques, les choix tragiques, plutôt que de les résoudre au niveau démocratique par le droit et par la loi, on va laisser en quelque sorte les professionnels se débrouiller pour opérer ces choix, parfois au mépris de leur éthique ou de leur déontologie professionnelle, ce qui, me semble-t-il, participe de l'accroissement de ce qu'on appelle la charge mentale du travail et qui, donc, participe de la dégradation perçue des conditions de travail. Alors, c'est d'autant plus pernicieux comme politique que, en quelque sorte, non seulement ça invisibilise le rationnement, puisque ça le sérialise, ça l'individualise, mais qu'en plus, on peut retourner aux professionnels, c'est à vous de décider, soyez autonome. Donc, en quelque sorte, de prendre les professionnels au piège de leur volonté d'autonomie. Alors, j'aurai évidemment pas le temps de dire tout ce que je veux dire, mais je prendrai un premier exemple qui est quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai toujours combattu dans les conférences que j'ai faites, sur les effets délétères de la focalisation politique et médiatique sur le thème de la fraude sociale. Il me semble que... alors, non pas dire que la fraude, il faut encourager la fraude, tout le monde est d'accord pour lutter contre la fraude. Mais c'est cette focalisation médiatique et politique qui me pose problème, pour la raison simple que, d'abord, et j'étais content de voir sortir le livre sur le non-recours au droit, comme l'envers de la fraude sociale, par mes collègues du CNRS regroupés dans l'Institut Audenor, qui montrent qu'en fait, qui reprennent en fait les chiffres du rapport Tian parlementaire de 2011, qui en gros chiffre la fraude aux prestations sociales à 3 à 4 milliards d'euros, ce qui est conséquent et mérite effectivement d'être combattu. 156 millions annuels environ, l'assurance maladie économise avec son équipe étoffée d'agents chargés de lutter contre la fraude. N'empêche que quand même, 3 ou 4 milliards d'euros, c'est 1% des prestations servies par le système de protection sociale. Et que si, par exemple, on compare les 160 millions d'euros d'économies liées à la lutte contre la fraude dans l'assurance maladie, on peut les mettre, ces chiffres, pour mieux les apprécier, en regard avec d'autres chiffres qui sont ceux de l'évaluation qui reste largement à faire du non-recours au droit. Par exemple, pour la CMU complémentaire, le taux de non-recours au droit a été évalué par une chercheuse à 26%, ce qui fait une non-dépense, une économie de 700 millions d'euros. 156 millions d'euros, 160 d'économies, 700 millions liés à une non-dépense, et une non-dépense qui générera plus tard des dépenses. Hein ? Bon, donc... Autre exemple, l'aide à la, alors là, qui est caricaturade, l'aide à l'achat d'une complémentaire santé, non-recours 70%, d'accord ? Soit 1,3 million de personnes, soit une non-dépense de 378 milliards d'euros. Comment se fait-il que dans le débat, nous nous focalisons sur les 156 millions d'euros de fraude à l'assurance maladie au mettre en regard notamment des 150 milliards d'euros environ dépensés par l'assurance maladie ? Et puis, de l'autre côté, effectivement, près de plus d'un milliard de non-dépenses liées à des non-recours aux droits qui, là, sont totalement invisibles. Alors, évidemment, pourquoi j'aborde cette question du non-recours aux droits, dans ce cadre problématique de l'effectivité des droits sociaux, c'est que, me semble-t-il, ce discours, d'abord, il permet de flatter un certain racisme social et ethnique, de fait, et il a une résonance certaine, dans la population, mais qu'il est un moyen pernicieux de réguler l'accès aux demandes sociales et de réguler les budgets sociaux. Autrement dit, ce discours de lutte contre la fraude stigmatise les populations visées, ciblées. Elles sont donc, comme elles sont ciblées et qu'elles sont stigmatisées, elles vont avoir beaucoup plus de réticence à se manifester pour accéder aux droits. En ce sens, ce discours, il n'est pas seulement qu'un discours, il a des effets de réel sur le fait que des gens sont exclus ou s'auto-exclus de l'exercice des droits sociaux. Ce qui pose une question fondamentale sur le débat, est-ce qu'il faut des dispositifs ciblés ou des dispositifs de droit commun ? Évidemment, il faut favoriser les dispositifs universels de droit commun, puisqu'il y a un adage en politique sociale qui dit très bien, un dispositif pour les pauvres devient rapidement un pauvre dispositif, dans la mesure où ceux qui en profitent ne sont pas ceux qui le financent, et qu'il y a toujours une alliance entre les classes moyennes et supérieures contre ceux qui sont supposés être des profiteurs, des assistés. Je vous passe le laïus qui est largement connu. Ensuite, à côté de cet effet pervers, de cet effet pervers ou but recherché de ce discours sur la fraude, me semble-t-il, l'exercice des droits sociaux suppose un système bien organisé, c'est-à-dire un système, c'est-à-dire des droits qui sont à la fois visibles, qui sont lisibles, on en parlait ce matin de le droit à l'information. Est-ce que les populations sont bien informées ? À l'évidence, non. Et ça peut être aussi une politique que de ne pas informer les populations ciblées, mais ça supposerait aussi, nous disent d'ailleurs les chercheurs d'Audenor, des institutions proactives, c'est-à-dire qui n'attendent pas une manifestation des éventuels bénéficiaires, avec tous les effets que j'ai d'auto-exclusion, mais au contraire, aillent au-devant des populations ciblées. Or, il faut quand même, en dépit des discours, je vais peut-être fâcher des gens, mais en dépit des discours sur le système, d'ailleurs, est-ce qu'il y a un système, mais de la continuité, on en parlait ce matin, de la continuité des intervenants. En fait, notre système de santé fonctionne de manière de plus en plus compartimentée et fonctionne de plus en plus en tuyau d'orgue, avec chaque compartiment qui a ses propres logiques. Et qui sont les victimes de cette compartimentation et de, je dirais, cette logique autonome de chaque compartiment? Ce sont évidemment les populations précaires, vulnérables, qui tombent dans ce qu'on peut appeler des trous institutionnels et que les PASS sont chargés, tant bien que mal, avec des moyens limités, de récupérer. Alors, je citerai quelques exemples, parce que je n'ai pas le temps de développer, mais sur hôpital... Non, je le sais, Denis. Je l'ai entendu. Mais d'abord, il faut savoir, on a un mouvement de long terme de séparation, d'autonomisation réciproque du sanitaire et du social. D'accord ? Bon, il faut savoir, on l'a vu tout à l'heure, ce matin aussi, avec des manifestations un peu corporatistes, des assistantes sociales qui se plaignaient que parfois des médecins monopolisent la parole. Bon, évidemment, le travail social s'est construit, sa professionnalité, contre le champ médical. Mais je ne vais pas revenir sur la longue période, mais il me semble quand même qu'on a fait un choix avec la loi Hôpital-Patient-Santé-Territoire, c'est d'entériner, puis avec les lois de décentralisation avant, d'entériner la séparation du sanitaire, des agences régionales de santé et du social qui va aux collectivités locales, conseils généraux, ou à ces directions mal identifiées et mal cohérentes que sont les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Bon, là, clairement, on a fait un choix qui met d'ailleurs en porte-à-faux au sein des ARS, par exemple, des professions comme les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales. C'est-à-dire qu'effectivement, cette tradition de la synergie du sanitaire et social, on l'a perdue avec l'autonomisation du sanitaire. Mais alors, on pourrait se dire, bon, tant pis, mais au moins, on va réussir à mettre une continuité, si on prend la loi HPST, à mettre une continuité des prestations et du service rendu entre la ville, l'hôpital et le médico-social. D'ailleurs, médico-social, c'est mi-médical, mi-social, et souvent, c'est ni médical, ni social. Hein. On pourrait revenir là aussi sur le dispositif FATRA de ce caractère médico-social, qui, en fait, est un trou en lui-même. Bon. Alors ensuite, d'abord... quand même le dire, je vais rappeler des évidences. Mais quand même, d'abord, alors on va dire, oui, il y a les ARS. Elles font ce qu'elles peuvent, mais elles continuent de fonctionner de manière compartimentée, tout simplement parce que le niveau national, ça a été dit tout à l'heure par Didier Sicard, parce que l'assurance maladie et l'État ne s'entendent pas. Et que l'assurance maladie, parfois en région, joue un jeu non coopératif avec les agences régionales de santé. Et donc, clairement, les soins de ville... on a une évolution préoccupante. Parce que là, on ne parle que des PASS, mais il me semble quand même que les PASS sont les lieux, en quelque sorte, le réceptacle de tous les dysfonctionnements de l'amont et de l'aval, mais particulièrement de l'amont. Je pense notamment à la politique de privatisation rampante du financement des soins courants et ce recentrage silencieux qui n'a pas donné lieu à débat de l'assurance maladie obligatoire sur le gros risque, c'est-à-dire le soin hospitalier. Le fait aussi, je pense, là encore, les discours et les actes, le déclin qui continue de la médecine générale et qui ne va pas s'arranger avec le protocole qui a été signé récemment, mais aussi une tolérance, par exemple, sur les refus de soins aux bénéficiaires de la CMU complémentaire ou de l'aide médicale d'État. Donc, clairement, là, la ville fonctionne selon une logique qui est de plus en plus, je dirais, contraire à un service rendu aux populations précaires. Ensuite, l'hôpital. Bon, bah, l'hôpital, je suis désolé de le dire, encore une fois, c'est une tarte à la crème, mais je suis désolé, aujourd'hui, l'hôpital, il est de plus en plus pensé comme une usine à soins techniques hautement spécialisée, dans laquelle tout ce qui relève du social, tout ce qui relève des problématiques de la précarité, se retrouve aux marges à vivoter avec des migas qui servent de variables d'ajustement budgétaire pour le retour à l'équilibre des établissements. Donc, là encore, et l'effet pervers de la T2A, c'est que la T2A favorise l'isolationnisme des établissements. Quel paradoxe ! Il y a à la fois à dire on va faire de la continuité des soins, des réseaux ville-hôpital, de la complémentarité, et à doter alors je ne dis pas que la T2A est mauvaise en tout, hein, mais à s'enthousiasmer pour un mode de financement qui favorise un univers, je dirais, hobbesien, c'est-à-dire de la lutte de tous contre tous. Hein, j'augmenterai mon activité. Bon, et j'en finis. Alors, j'en finis, hein, Denis. Alors, j'ai une question qui me tient à cœur et que j'ai entendue. Alors, c'est pour ça que je rajoute ça en propos. C'est sur la valorisation de l'activité des PASS. D'ailleurs, Et notamment, on sait que cette valorisation de l'activité dépasse, notamment dans sa dimension complexité, prise en charge globale, avec toute l'incertitude qu'il y a, etc., avec l'idée de pluriprofessionnalité aussi, etc., est complètement à rebours de cette vision productiviste et industrialiste qui est en train de prospérer via des politiques publiques liées à des indicateurs de performance qui sont effectivement très mal élaborés pour cerner la spécificité des activités de service en général, mais des activités médicales en particulier. Et je finirai là-dessus. Il me semble que là, il y a des alliances à nouer, parce qu'il y a quand même des chercheurs en sciences sociales qui ont beaucoup réfléchi aux limites des indicateurs, aux limites de la mesure chiffrée de la performance, notamment de ce qu'ils appellent, ce qu'on pourrait appeler une idéologie de la performance totale, hein, quant aux freins, et d'autres formes d'évaluation, d'autres formes d'indicateurs, et d'autres formes même plus qualitatives d'évaluation, qui soient le mieux à même de rendre hommage à ce qui fait l'honneur des PASS. Voilà, je vous remercie.